Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner face aux imprévus sur votre route.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, nous essayons jour après jour de traiter les questions de santé sans tabou. Mais s'il est un sujet qui, certainement plus que tous les autres, impose mesure, respect et humilité, c'est bien la fin de vie. Dernier jour, dernier souffle, un crépuscule rarement exposé, agonie à huis clos, un concentré d'intimité. Cette question extrêmement délicate est revenue ces dernières semaines dans l'actualité en France. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis qui énonce les conditions strictes pour éventuellement faire évoluer la loi actuelle vers une aide active à mourir. Une convention citoyenne sur la fin de vie voulue par le président Macron est en train de voir le jour et pourrait rendre ses conclusions au printemps prochain. Alors, cette procédure aboutira-t-elle à changer la loi de 2016, la loi classique Leonetti qui encadre la fin de vie des malades incurables. En Europe, de nombreux pays ont déjà franchi le pas. Belgique, Pays-Bas, évolution très récente pour l'Espagne ou l'Italie. La France est-elle prête pour cette grande réforme sociétale? Nous donnons la parole à nos invités sur cette question aujourd'hui dans Priorité Santé. Aide active à mourir, euthanasie, suicide assisté, aide médicale à mourir. Sujet tabou qui concerne chacun d'entre nous en fonction de nos croyances, de notre vécu, de notre santé et de celles et de ceux qui nous sont chers. Une question de choix, une question de responsabilité. Pour en parler, nous sommes en compagnie du docteur Denis Labelle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin co-président de l'association Le Choix et vous avez signé aux éditions Plon le livre « Le médecin, la liberté et la mort ». Nous donnerons la parole tout à l'heure au docteur Isabelle Marin, pneumologue, qui anime une équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Et il exerce en Belgique, un pays où il a ouvert une consultation fin de vie. Nous retrouverons également le professeur François Damas, médecin au CHR de la Citadelle à Liège. En fin d'émission, on retrouvera la chronique nutrition de Bintou Chersek, diététicienne nutritionniste au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Une question de société qui revient donc en force dans l'actualité avec une voix que je souhaitais vous faire entendre, docteur Denis Labelle. Avant de vous donner la parole, cette voix, c'est celle de l'artiste, chanteuse, actrice, militante infatigable de la lutte contre le sida, Lynn Renaud, 94 ans, popularité intemporelle et puis des convictions personnelles.
Nous avons notre choix de vie, donnons-nous notre choix pour mourir. Je ne veux pas vivre dans la souffrance, dans la douleur. Donc quand on sait que la mort est proche, on fait quelque chose. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de prolonger, de souffrir? Je parle aussi de choses que j'ai vécues. J'ai vécu la mort de ma mère, j'ai vécu la mort de Loulou, j'ai vécu la mort des malades du sida. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui se sont suicidés. Ma mère me disait toujours, je disais, maman, mon Dieu, quel courage tu as. Elle me disait, je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attendre de mourir. Alors que c'était si facile de l'aider à mourir. Quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir, pourquoi persister?
Lynn Renaud, en avril 2021 sur France 2 avec Élise Lucet, soutien très clair au libre choix de fin de vie. Et si celle qui, en 2019, faut le rappeler, avait reçu le prix de la femme la plus optimiste de France, s'engage publiquement sur cette question, c'est parce qu'en avril 2021, docteur Labelle, l'Assemblée nationale a débattu du sujet. 240 députés ont approuvé le principe d'une assistante médicalisée active à mourir, mais l'obstruction des milliers d'amendements ont eu raison de cette initiative. L'examen de la loi Falorni a été ajourné. Et ça a été au tour, donc, fort de tout ce remue-ménage, en quelque sorte, au comité consultatif d'éthique de se saisir de la question, d'où aujourd'hui cette relance du débat. Voilà, c'est un petit topo pour savoir pourquoi on en parle aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, vous co-présidez l'association Le Choix. Alors, comment vous, docteur Denis Labelle, médecin, qui, pendant plus de deux décennies, avait été chef de service à l'hôpital, comment vous devenez l'une des voix, porte-voix de ce droit à choisir la fin de vie?
Écoutez, ce sont les malades qui m'ont appris. Ils m'ont appris leur diversité de demandes. Et quand on est un peu à leur écoute, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont pour des soins palliatifs, d'autres qui veulent rester à l'hôpital. Il y en a qui me disaient, mais écoutez, je suis bien avec vous, je suis bien avec les infirmières, les aides-soignantes, je n'ai pas envie de changer au dernier moment. Et puis il y en a qui veulent partir très rapidement. Donc c'est cette diversité d'avis qui m'a questionné. Et pourquoi cette diversité? En fait, il y a un problème de fond qu'on n'aborde pas souvent, qui est celui de savoir, dans les maladies incurables, lorsque le traitement curatif n'est plus possible, qu'on arrive à des soins qu'on dit palliatifs, il y a un choix de société qui est fait par les uns ou par les autres. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont pour la vie coûte que coûte et ceux qui sont pour la défense, la lutte contre la souffrance. C'est souvent en raison de positions religieuses que les uns choisissent l'un ou l'autre. Toutes les religions monothéistes sont pour la vie coûte que coûte. C'est leur droit, il faut le respecter. Mais il y a actuellement tout de même beaucoup de gens qui ne sont pas croyants ou qui croient à un mystère comme cela, qui n'est pas personnalisé. Et ceux-là aussi, il faut les écouter parce qu'eux disent « Non, moi, je n'ai pas envie de souffrir. Je veux partir comme ça, doucement, entouré des miens. »
Alors, une citation qui peut résumer le fond de votre pensée. « Aider médicalement les malades à mourir n'est jamais simple. La mort gagne toujours. » On peut seulement en atténuer la perfidie. Docteur Labelle, un engagement personnel aussi. Vous parlez, les patients me l'ont appris, mais les soignants aussi, parce qu'il y a des soignants qui se retrouvent dans des situations de véritable détresse et ça se termine même parfois devant les tribunaux.
Tout à fait. Ça touche autant les infirmières, les aides-soignantes que les médecins, je dirais même l'administration et la société. En fait, c'est un problème global. Et quand on est confronté à ce problème de fin de vie, on ne peut le résoudre qu'en discutant entre nous. Et ça, moi, toutes les semaines, on faisait le point entre les infirmières, les aides-soignantes et les médecins pour savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de tel. Mais on était tous d'accord sur un point. C'est que la médecine, les soins ne s'arrêtent pas à la fin de vie. Le rôle d'un médecin, des médecins, je dirais de la médecine, c'est de commencer à la naissance et se terminer à la mort. C'est parce que les traitements ne sont plus curatifs, qu'il faut obligatoirement diriger les patients vers des services spécialisés. Non, c'est le rôle de tout médecin, sans exception.
N'excluons pas les mourants de l'hôpital.
Non, n'excluons pas les mourants de l'hôpital. L'idéal, justement, c'est que les gens restent dans leur service. Mais là où je dis que la société intervient, c'est qu'on a supprimé 40% des lits d'hospitalisation, ce qui rend considérablement difficile la prise en charge des patients en fin de vie.
Alors pour resituer les choses, dans un pays comme la France, docteur Denis Labelle, qu'est-ce que permet le texte aujourd'hui en vigueur, la loi Claeys-Leonetti? Il y a le texte sur le papier et il y a la réalité.
Tout à fait. Quand on voit le titre de cette loi, on peut dire qu'il y a ça peut répondre à un grand nombre de demandes. C'est-à-dire la sédation profonde continue jusqu'au décès. Très bien. Le problème, c'est que quand on se plonge un peu dans cette loi et qu'on envoie le décret d'application qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé et il s'est marqué « inspiré par la Société française de soins palliatifs », on découvre autre chose. On découvre d'abord une méthodologie qui, pour certains médecins, est inacceptable. Je le dis franchement, ça fait 15 ans que la loi Leonetti et la loi Claeys-Leonetti nous disent qu'il faut déshydrater les malades. Et moi, j'ai toujours appris qu'il ne fallait jamais déshydrater les malades. Je ne dis pas qu'il faut les forcer à l'alimentation, etc. Bien sûr, ça serait absurde. Mais l'hydratation, vous savez, les gens qui font la grève de la faim, ils s'hydratent. Et parce qu'ils savent très bien que la déshydratation, c'est une souffrance. Et la deuxième chose, c'est que le protocole est extrêmement progressif, ce qui aboutit à des agonies prolongées. Frère est décédé au mois de janvier 2021 et son agonie en soins palliatifs a duré un mois. Un mois horrible pour nous, pour lui, pour toute la famille. Et la deuxième chose dans cette loi que nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'elle est extrêmement restrictive sur les indications. Il faut vraiment être au stade ultime, terminal, pour qu'on puisse demander. Il faut avoir des douleurs incontrôlables. Incontrôlables depuis quand? Ça veut dire quoi? Moi, je suis médecin pour que les gens ne souffrent pas. Je ne suis pas pour attendre que mon traitement sur les douleurs soit inefficace pour commencer à agir.
On va essayer de resituer les choses sur la terminologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, la différence? Ce ne sont pas forcément des synonymes complets. Aide active à mourir, euthanasie, aide médicale à mourir. C'est quoi la différence entre les trois?
Alors, disons que l'aide active à mourir englobe les autres propositions. C'est-à-dire, dans l'aide active à mourir, vous avez à la fois l'aide médicale à mourir lorsque vous faites appel à un médecin ou le suicide assisté, lorsque la personne, avec d'autres personnes, une association ou autre, choisit elle-même de mettre fin à ses jours.
C'est ce qui se passe en Suisse.
Hein.
Ce n'est pas le médecin, on va dire, ça se passe comment ? Je vais être très concrète. Ça veut dire que la substance létale, mortelle, est par une tubulure, et ça veut dire qu'il y a un petit robinet qui va être ouvert par le patient lui-même ou un proche, et non pas un médecin.
Alors, soit par voie intraveineuse, soit par voie buccale. Mais il faut savoir que dans tous les cas, même en Suisse, et en Oregon, et dans la plupart des États américains qui ont fait ce choix, la prescription reste médicale. Et les médicaments sont fournis par le pharmacien.
Donc, si opposition. Il y a un médecin qui est présent physiquement sur place ?
Non. Au moment du suicide assisté, il n'y a pas de médecin sur place. Et le médecin voit le patient avant, la patiente avant. Et c'est le patient qui décide, ou la patiente qui décide. Et ça, c'est très important. Bien sûr, il ne faut pas croire que c'est l'association est responsable. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient en situation de maladie incurable. Et enfin de...
Ça veut dire qu'il y a une consultation préalable, bien évidemment.
Il y a plusieurs consultations, parfois.
Donc, vous disiez distinguer des termes d'euthanasie et d'aide médicale à mourir.
Alors, l'aide médicale à mourir, c'est la Belgique. C'est-à-dire que c'est un médecin qui prend en charge le patient, qui l'écoute, qui décide avec lui du jour, de la décision. Et il est là. C'est lui qui fait le geste. Il achète même les médicaments, théoriquement, dans certains cas. Et il est là jusqu'au dernier moment. Et les gens, ils demandent juste avant, est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Et c'est lui qui met la perfusion en route. Au moins qu'il les met active.
Et vous disiez, personnellement, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans votre livre, vous, la terminologie que vous préférez, si on peut parler ainsi, c'est l'aide médicale à mourir. C'est quoi la distinction ? Qu'est-ce qu'il y a de différent, de sensible dans cette expression ?
Ben, si vous voulez... Le mot courant, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, ça a été marqué historiquement. Les gens en abusent de ce marquage parce que, bon, ça n'a aucun rapport. On est là à essayer dans la compassion et non pas dans la violence.
Néanmoins, c'est une référence historique à laquelle vous faites référence.
Voilà, les gens le ressortent régulièrement lorsqu'on aborde ce sujet. Donc, moi, je suis assez favorable à ce que l'on utilise un autre mot, l'aide médicale à mourir, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous savez, quand il y a eu la loi sur l'avortement, le mot avortement n'est pas apparu dans la loi. C'est interruption volontaire de grossesse, parce que le mot, à l'époque, posait problème. Donc là, on aura la même chose, je pense, avec l'euthanasie, et je pense que l'aide médicale à mourir est plus parlant.
Et tout à l'heure, vous citiez la Belgique, justement. En Europe, certains pays ont évolué différemment. On a parlé de la Suisse. On part en Belgique pour vous donner la parole, professeur François Damas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin au centre hospitalier de la Citadelle à Liège. Vous avez ouvert sur place depuis près de 8 ans une consultation de fin de vie. De quoi s'agit-il ? Ça ressemble à quoi, cette consultation, professeur Damas ?
Alors, il suffit d'aller voir le documentaire qui est toujours disponible sur Arte pour comprendre bien ce que c'est cette consultation. Il s'agit de recevoir des personnes qui sont dans une situation pour elles difficile et qui songent à une fin de vie qu'elles voudraient bien vivre dans les meilleures conditions possibles. Et elles viennent me trouver pour avoir des conseils, soit rédiger des directives anticipées, soit prévoir éventuellement une euthanasie parce que la loi impose que pour accepter et pour qu'elle soit conforme légalement aux conditions prévues, il faut qu'il y ait un deuxième avis d'un médecin. Et donc, régulièrement, je reçois des malades envoyés par leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste pour avoir un second avis indépendant sur leur demande d'euthanasie. Et évidemment, cette consultation, elle se fait dans la plus grande majorité pour des personnes qui viennent les voir en chaise roulante, bien sûr. Elles ne sont pas parfaitement vaillantes.
Pas parfaitement vaillantes. Mais... Excusez-moi, pour revenir au cadre légal, on a décrit brièvement tout à l'heure avec votre confrère, le docteur Labels, qui était en vigueur pour la France. En Belgique, qu'est-ce que dit la loi ? On a entendu là double consultation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce texte qui a autorisé l'aide médicale à mourir ?
Qui vont me permettre de répondre d'une manière plus précise. Il y a 3 lois en Belgique.
Oui.
La première loi, qui est la loi sur le droit du patient, qui permet aux patients de refuser des traitements et d'obtenir des arrêts de traitement. Les décisions médicales de fin de vie qui influencent le moment de la mort, elles sont de 3 ordres. 1, la décision d'arrêt de traitement ou d'abstention de traitement susceptible de prolonger la vie. C'est ce qu'on fait en réanimation. Ce sont des décisions majeures lourdes de conséquences et qui sont régies par la loi sur le droit du patient et qui influencent clairement le moment de la mort. Deux, la loi sur les soins palliatifs qui permet et qui exige de la part des médecins d'apporter les meilleures conditions de fin de vie à leurs patients, y compris en leur administrant des médicaments parfois à dose élevée, analgosédatifs qui permettent de soulager les souffrances réfractaires. Ça, c'est aussi des décisions médicales qui influencent, qui sont susceptibles d'influencer le moment de la mort, parce qu'on administre parfois des médicaments à dose élevée, comme celle que la loi Leonetti prévoit en France, qui est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça peut influencer le moment de la mort. Et trois, la loi sur l'euthanasie, qui permet, elle, à des malades de décider du moment de la mort, de choisir leur dernier jour et leur dernière heure. Ça, c'est quelque chose de très différent des deux premières, parce que les deux premières décisions, l'administration de médicaments à dose élevée ou l'arrêt de traitement, elles appartiennent encore au docteur. Oui. Tandis que la troisième condition, que l'on appelle effectivement au Canada aide médicale à mourir, elle appartient au patient uniquement. Et c'est le patient qui prend l'initiative de faire une demande particulière au malade, au médecin, pardon, d'obtenir un geste euthanasique. Et donc, faisons attention aux mots. J'ai entendu mon collègue dire « le médecin demande si le patient est d'accord ». Non, c'est pas ça comme ça qu'il faut voir. C'est toujours une erreur de perspective. C'est le malade qui demande et c'est le médecin qui est d'accord. Le médecin vient, il demande « est-ce que vous êtes toujours demandeur ?» Et le patient dit « oui, je suis demandeur ». Et moi, je dois dire « oui, je suis d'accord avec vous ». Donc, il faut toujours renverser la manière de penser spontanée que des gens ont. Ils pensent que l'euthanasie, c'est un pouvoir qu'on donne aux docteurs. Non, l'euthanasie, comme la loi l'indique en Belgique, c'est un pouvoir que l'on donne aux malades.
Professeur Damas, est-ce qu'on sait combien d'euthanasies sont pratiquées dans votre pays désormais?
Alors, madame, 40% des décès en France, comme en Belgique, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, sont influencés par des décisions médicales. 40%. Et sur ces 40%, en Belgique, il y a 2,5% qui sont faites par euthanasie.
Donc c'est quelque chose qui reste extrêmement limité, malgré tout cet encadrement légal que vous venez de détailler. Est-ce qu'il vous est arrivé, justement, vous parliez de cette consultation, de refuser cette possibilité lors d'une consultation fin de vie? On a bien compris, la personne vient avec sa requête, et vous l'écoutez, et ensuite vous échangez. Est-ce que ça vous est arrivé de refuser?
Mais effectivement, le malade vient avec une demande et le médecin est autorisé par la loi à accepter son demande à partir de critères médicaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est confié à des docteurs, puisque c'est les critères médicaux qui permettent ou non d'accepter cette demande. Et donc le médecin doit, de son point de vue professionnel, échanger avec le malade qui, lui, a un point de vue de malade et qui est parfois submergé par ses souffrances. Le médecin doit pouvoir opposer et confronter un point de vue professionnel en disant « Mais monsieur ou madame, il y a d'autres choses à faire que faire l'euthanasie, il y a d'autres solutions.
Je vais vous couper pour donner un exemple très concret. Quelqu'un qui est dans un épisode de dépression aiguë, on va dire qui en a marre de la vie, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Ça c'est clair. Quand quelqu'un a une souffrance morale majeure, et qu'il apparaît parfaitement en dépression ou en mélancolie, on s'attache d'abord à soigner sa mélancolie ou sa dépression avant de lui dire ben, « vous avez raison, on va vous euthanasier ».
On va l'orienter vers un service de santé mentale pour parler concrètement.
Oui.
Mais il y a une objection fréquente dans le débat, professeur Damas. La compatibilité entre l'assistance médicale à mourir et le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire tu ne nuiras pas et jusqu'au bout, tu aideras le corps, l'esprit à s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je pense que la loi, comme la loi sur l'euthanasie en Belgique, balise cet acte en faisant en sorte que on transforme cet acte qui peut être, à juste titre, je pense, considéré comme épouvantable par beaucoup, mais permet, en respectant ces conditions légales, de transformer cet acte en un dernier acte de soin. Et là, c'est vraiment dans la logique du serment que nous formulons au début de notre carrière, c'est d'être à côté des patients et ne pas les abandonner et d'assurer des soins jusqu'au bout. Et pour certains d'entre eux, ils se trouvent dans une situation tellement épouvantable ils préfèrent choisir le moment de leur mort et demander à mourir à un moment donné parce que leur situation est devenue tellement, tellement grave et insupportable qu'ils ne voient pas d'autre perspective. Et ils peuvent à ce moment-là échanger avec un praticien et être reconnus dans leur démarche, être reconnus dans leur parcours personnel et être reconnus aussi comme des interlocuteurs valables, capables de choisir pour eux-mêmes quelque chose qu'ils désirent obtenir de la part d'un professionnel qui va faire sa condamnement.
Et ça, c'est excusez-moi, toujours avec nous en studio, le docteur Labelle, je souhaitais aussi que vous réagissiez sur ce même argument, possible contradiction avec le serment d'Hippocrate.
Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque. Peut-être je me suis mal fait comprendre. C'est évident que la demande doit venir du malade. Mmh. Hein, c'est une évidence, je l'ai dit au départ. Alors, le serment d'Hippocrate, c'est très intéressant. Il suffit de regarder sur Internet. C'est un texte qui a évolué de façon incroyable en l'espace...
Au gré des changements.
Absolument. Absolument. Le texte initial n'a plus rien à voir avec le texte que prononcent actuellement les jeunes médecins. Et moi-même, le texte que j'ai prononcé en 1968 n'est pas le même qu'en 1996, n'est pas le même que celui de 2013. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur ce serment d'Hippocrate et ça devient une sorte de, je dirais, d'épouvantail que l'on, par rapport à des idées que, nouvelles que l'on veut sortir. Non. Ce qui est important, c'est que c'est la philosophie de l'affaire. Hein. Et moi, je dirais par exemple qu'il manque dans le serment d'Hippocrate cette phrase que je cite dans le livre et qui dit « Je soignerai mes patients jusqu'au bout en respectant leur choix ». Ça n'existe pas dans le serment d'Hippocrate. Ça n'existe. Et il y a bien d'autres questions que pose le serment d'Hippocrate qu'il n'y ait pas. Donc, c'est un texte qui est évolué, évolutif, et on ne peut pas l'utiliser comme, voilà, comme un... l'élément pour défendre n'importe quelle idée.
Professeur François Damas, une dernière question en vous retrouvant en ligne de Belgique. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir dans votre consultation des patients venus de France parce qu'en France, eh bien, cette consultation n'existe pas?
Oui, j'en reçois très régulièrement. Depuis l'affaire d'Anne Berthe qui a fait un petit peu de publicité, si je puis dire.
Alors, c'était une écrivaine française qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui, voilà. Ne pouvant justement avoir ce droit à l'aide médicale à mourir en France, a passé la frontière.
Voilà, vous résumez bien, voilà. Tout à fait. Et bien alors, je reçois énormément. Je reçois 1 à 4 Français par semaine à la consultation qui, pour la majorité d'entre eux, sont soit des problèmes de cancer, soit des problèmes de maladie de Charcot, effectivement. Sur 1 à 4 Français qui viennent me voir, il y en a 1 sur 4 en tout qui arrivent au bout de leur parcours et qui reviennent pour obtenir l'euthanasie comme ils le souhaitent.
Et ça se passe comment dans ce cas-là? Ça se passe sur le territoire belge avec la famille qui fait le voyage pour l'accompagnement dans cette dernière étape de la vie?
Bien sûr, l'euthanasie ne se résume pas à la simple injection finale. Hein. C'est tout ce qui se prépare avant et l'accompagnement qui... Et nous accueillons évidemment les personnes en Belgique, puisque nous ne pouvons pas faire ça en France, avec leur famille, leur entourage, leurs amis. Et parfois, on est très nombreux dans la chambre d'hôpital où la dernière cérémonie d'adieu peut se faire, le dernier rituel d'adieu peut se faire avant qu'ils ne s'endorment par une addiction d'anesthésie générale.
Parce que tout ça aussi, comme chaque épreuve de la vie importante, est extrêmement ritualisé. Merci beaucoup, professeur François Damas, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'auteur du livre « La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux » aux éditions Mardaga. Docteur Labelle, on vous retrouve. On citait l'exemple de la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Portugal ont aussi légiféré. Certains États d'Australie et des États-Unis, là c'est plus fédéral, c'est différent par rapport à notre constitution. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de frilosité particulière de la part de la France?
Ah, c'est certain.
Pourquoi?
C'est difficile à dire pourquoi. En fait, il y a des pouvoirs très forts en France. Je dirais que j'en citerai 3. Le pouvoir médical, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les 3, parfois se conjuguant et travaillant ensemble. Le pouvoir médical, il y a 3 instances qui sont totalement opposées à l'évolution de la loi, tout au moins de façon extrêmement progressive et je dirais repousser le problème encore de 20 ans. C'est le Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a jamais accompagné un changement sociétal depuis qu'il existe. Il a toujours suivi. Il y a le comité consultatif d'éthique, qui a une position aujourd'hui qui est semblable à celle qu'il avait il y a 20 ans.
Même s'il a rendu un avis qui
va
dans un
sens
contraire.
Oui, tout à fait. Mais il y a 20 ans, c'était exactement pareil. L'exception de l'euthanasie était déjà dans le texte il y a 20 ans. Donc, on n'a pas une évolution considérable. Et puis, il y a le pouvoir religieux, qui, quelle que soit la religion, qui intervient régulièrement. On voit les articles récemment, j'ai lu dans Le Monde, l'article des évêques de France. Moi, je respecte tout à fait ce que ces gens là pensent, mais je voudrais qu'ils respectent l'avis des autres, de ceux qui n'ont pas le même point de vue.
Et justement, le débat qu'on a depuis le début de l'émission, il est apaisé, docteur Labelle. Faut dire que pour l'instant, on n'a que deux personnes qui sont favorables à l'euthanasie. C'est un petit peu disproportionné comme débat, vous en conviendrez. Mais en tout cas, ça suscite énormément d'agressivité. Comment vous expliquez que pour un sujet aussi intime, lourd, sérieux, franchement, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on n'a pas beaucoup d'occasion de sourire. Comment se fait-il qu'on en vienne à l'invective, à la menace, y compris, d'ailleurs, vous l'avez subi vous-même, des véritables menaces dans votre intégrité physique?
Tout à fait. J'ai reçu des menaces de mort plusieurs fois, etc. Mais vous savez, dans le texte de loi, toute personne qui aide une personne à mourir, c'est-à-dire répond à la demande du patient, est considérée comme un meurtrier, empoisonneur, etc., etc. Le geste, d'abord le mot euthanasie n'existe pas dans la loi, l'aide médicale à mourir encore moins, et donc on est dans une situation extrêmement violente.
Aujourd'hui, oui, si vous faites violente. Ce geste, vous êtes encore une fois punissable, vous irez devant un tribunal.
Eh bien, il y a une double punition, hein, et le docteur Bonnemaison les a vécues. Un, la justice de la République, et deux, le Conseil de l'Ordre des médecins, qui du jour au lendemain pour vous interdire de travailler. Donc, ce qui fait que ça crée une peur considérable au niveau médical qui n'existait pas quand moi j'ai commencé mes études médicales, où tout le monde apprenait, tous les internes apprenaient qu'à ce moment-là, il fallait faire ce qu'on appelait les cocktails lytiques, c'est-à-dire l'association de sédatifs et de morphiniques. Et c'était admis par tout le monde. Et puis ensuite, ça dérivait vers quelque chose de très strict avec la loi Leonetti et on est revenu en arrière.
Mmh. Docteur Labelle, on va poursuivre ce débat en deuxième partie d'émission, juste après un trio de la musique. On respire un peu, Grand Corps Malade, Ben Mazoué, Gaël Faye, avec ce titre éphémère.
Si les nuits d'été, on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel, quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes.
L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif. Il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après.
Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs.
Le précaire s'agénère, l'émotion s'accélère.
Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère.
Pour se sentir vivant, loin des routines amères.
Laisser taire l'ordinaire,
laisser faire l'éphémère.
Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel. C'est juste un prêt, la vie, un trait léger de craie. Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais immobile.
Y'a pas d'avant, pas d'après, rien d'indélébile
sur cette terre
que de l'éphémère.
Restera rien de nos livres,
de nos rimes,
de nos lignes,
de nos vies.
Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide. Mais qui sait, on laissera même un film,
un faisceau dans la nuit.
Il ne restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies. Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide. Mais qui sait, on laissera même un film, un faisceau dans la nuit.
Faire l'éphémère.
Les jours passent et tout s'efface. Les jours passent et tout s'efface. Tout s'efface.
Priorité santé sur RFI, nous parlons du débat en France sur l'aide médicale à mourir. Toujours en compagnie de notre invité, le docteur Denis Labelle, médecin et co-président de l'association Le Choix. Docteur Labelle, les enquêtes d'opinion montrent les unes après les autres qu'il y a une très large majorité en France. Les personnes interrogées approuvent le recours à l'euthanasie. Est-ce que les choses évoluent depuis des décennies quand on a du recul par rapport à cette question? Les idées ont changé?
Il y a une sorte de fossé incroyable entre la population qui réclame depuis 20 ans, disons maintenant qu'il y a des enquêtes d'opinion sur ce sujet, avec des résultats qui n'ont été qu'en augmentant. 80 à 90% de la population dit « on veut que ça change, on veut qu'on tienne compte de la souffrance, on veut l'idéal, s'endormir chez soi, à domicile ». Et cette opinion-là ne passe pas au niveau des instances, ni politiques, ni religieuses, ni médicales. Là, vraiment, il y a un fossé entre ce qu'on dirait les élites, grosso modo, et la population, là, que je ne comprends pas.
Et une précision importante, dans un débat où vraiment il y a des chapelles qui s'opposent les unes aux autres, vous n'êtes pas hostile aux soins palliatifs.
Pas du tout, pas du tout. Si vous voulez, je pense qu'il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas un problème de dignité pour moi. Contrairement à ce qu'on dit, il faut offrir... Non, il y a des gens qui peuvent voir de la dignité dans la souffrance, dans le fait d'accepter leur sort. Et je respecte totalement ce point de vue. D'autres disent, moi, ma dignité, c'est au contraire de ne pas souffrir.
C'est deux points de vue. Mais même sans aller jusqu'à la dignité, qui a quand même un côté moral, on peut avoir des convictions religieuses qui nous l'interdisent et on choisit d'aller au bout de manière naturelle. Mais on peut avoir aussi une voie différente.
Mais 60% des catholiques sont pour un changement de la loi. Donc ça prouve que la frontière n'est pas claire et nette. Mais c'est un problème de liberté, voilà, que les gens puissent utiliser, profiter de leur dernière liberté. Ils n'en auront pas 50 après. C'est leur dernière liberté. Alors, c'est une liberté en plus qui n'empiète pas sur les libertés des autres. C'est là où je ne comprends pas la violence du débat. Je te respecte, tu me respectes.
Parce que la liberté, c'est de le faire ou de ne pas le faire.
Absolument. Et il faut savoir que la notion de savoir qu'on peut le faire est désangoissant. Moi, j'ai eu un patient qui avait un cancer du pancréas et qui m'avait téléphoné pour que je l'aide à mon réalité paniquée.
Cancer incurable.
Cancer incurable. Et on sait que c'est un cancer qui peut avoir des douleurs très intenses. Et donc, je lui dis, il m'a dit, est-ce que vous pourriez m'aider? Je ne le connaissais pas. Je dis oui, mais il faut qu'on se voit régulièrement, qu'on crée ce que le professeur Damas appelle une sorte d'alliance. Ça me semble très important. Et donc, je l'ai vu régulièrement. Et sa femme m'a dit, mais depuis qu'il sait qu'on peut l'aider, il est métamorphosé. Et donc, sa durée de vie a été très prolongée pour un cancer du pancréas. Pendant 2 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel, il a été à Rome, il a été à Amsterdam, etc. Il a vu son enfant.
Il était apaisé.
Il était apaisé. Et il est mort brutalement. Je n'ai pas eu à intervenir de telle façon. Mais pendant 2 ans, ça lui a offert une vie de qualité.
Alors, on reparle des soins palliatifs, précisément. Une équipe mobile qui exerce dans le département de la Seine-Saint-Denis. On vous donne la parole, docteur Isabelle Marin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue, donc à l'initiative de cette équipe de soins palliatifs de l'hôpital de La Fontaine. Pour bien comprendre, vous travaillez dans les différents services auprès des patients en fin de vie. Comment est composée votre équipe?
Alors, je suis à la retraite. Donc, mon équipe est toujours composée, mais était composée de psychologues, d'infirmières, secrétaires. Et en effet, on allait intervenir tant tous les services de l'hôpital, c'est l'hôpital de La Fontaine, mais on intervenait aussi dans les EHPAD avoisinantes et via le réseau qu'il y avait sur le territoire, on intervenait aussi à domicile. Enfin, le réseau intervenait à domicile en collaboration.
Alors, vous avez exercé très longtemps dans ces unités dédiées à l'accompagnement et à la lutte contre la douleur. Docteur Marin, comment est-ce que vous réagissez à la relance de ces consultations là sur la question de l'aide médicale à mourir?
Alors, juste, excusez-moi, parce que j'ai oublié des gens très importants dans mon équipe, c'était les bénévoles, je suis désolée,
oui.
Qui venaient aussi au chevet des patients à l'hôpital. Alors, la relance, elle est un peu, elle est très ancienne. Ce qui est un peu choquant pour nous, c'est que la majorité des Français, ils veulent ne pas souffrir, en effet, ça c'est vrai. Mais pour ne pas souffrir, on peut aussi être soulagé, être traité. Et pour le coup, ça, c'est pas tout à fait actuellement. D'abord parce que les soins palliatifs, tout le monde est pour, mais personne ne donne les moyens. Donc, il y a 27 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les unités mobiles sont extrêmement réduites. Actuellement, je travaille en retraite dans une unité mobile en Bourgogne, où il y a une infirmière pour un département et un demi-médecin. Donc, vous voyez bien qu'on peut pas.
Donc, le fond de votre pensée, c'est peut-être d'abord mieux pourvoir en soins palliatifs avant de changer la loi, mais peut-être qu'il peut y avoir les deux en même temps, non?
Alors, en même temps, c'est très à la mode, mais on ne peut pas faire en même temps la vie et la mort. Ce n'est pas possible, ça. Et nous, ce qu'on a vu, en tout cas dans 93, moi, ce que je vois, c'est que chaque fois qu'il y a ces débats qui sont relancés, il y a une angoisse des malades. Parce que ces malades se disent, si la loi permet l'euthanasie, comme je n'ai pas de papier, comme je suis pauvre, comme il n'y a plus de lit à l'hôpital et plus de moyens, on va me le proposer. Donc nous, ce qu'on voit, c'est une poussée d'angoisse à chaque fois.
Mais quand on vous dit ça, vous rassurez les gens, parce que c'est évidemment pas la réalité. On va pas du jour au lendemain proposer une injection létale aux personnes qui viennent en consultation. Ça, tous les soignants le savent.
Non, en consultation, bien sûr que non, et c'est pas du jour au lendemain non plus. Il n'empêche que, par exemple, au Canada, on a vu des précaires qui ont demandé l'euthanasie parce qu'ils ne voyaient pas comment se débrouiller de leur situation de précarité. Alors, bien sûr qu'ils étaient très malades, Mais ils montraient bien qu'ils le demandaient parce qu'ils n'avaient plus de place dans le monde, quoi.
Et c'est parce vous avez des données chiffrées sur ces informations ?
Alors, il y a deux cas qui ont été publiés récemment, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres données chiffrées. Mmh. Ce qu'on sait, c'est que par contre, dans les demandes d'euthanasie en Belgique, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui demandent d'euthanasie. Bon, mais à la limite, c'est mon propos, d'une certaine façon, ça ne me concerne pas. Moi, je suis soignante, moi, ce que je soigne des vivants et j'essaye de les soulager. Donc, je m'occupe pas de la mort, voyez-vous.
Mais en même temps, on appartient à une communauté, qu'on soit soignant, citoyen, et d'autant plus sur des personnes qui viennent dans parfois des situations de détresse. Les services travaillent les uns avec les autres, donc c'est normal qu'on s'interroge sur des évolutions qui concernent finalement l'ensemble de la société.
Bien sûr, mais si vous voulez, la réponse à la détresse, pour moi, elle est ailleurs. La réponse à la détresse, pour moi, elle est de soulager la détresse. Elle n'est pas de supprimer la personne. Alors,
Vous dites supprimer la personne, et là, on revient justement à une certaine, ce qu'on abordait tout à l'heure, une certaine violence verbale. Supprimer la personne, ça pourrait sous-entendre finalement que cette personne n'en a pas fait la demande. Or, tout à l'heure, ce qu'on a vu avec l'exemple qui est aujourd'hui appliqué en Belgique, c'est que l'initiative de la consultation, elle vient de la personne elle-même, qu'elle va rencontrer plusieurs soignants, plusieurs médecins qui ont donc un recul normalement nécessaire, à moins qu'on se retrouve face à un criminel en puissance. En tout cas, le recul nécessaire pour donner un avis médical. Donc, quand on dit supprimer quelqu'un, est-ce qu'on ne continue pas d'alimenter cette espèce de suspicion et d'angoisse par rapport à l'aide médicale à mourir ?
Alors, l'aide médicale à mourir, c'est un euphémisme qui est employé maintenant pour parler d'euthanasie et de suicide assisté. Monsieur Labelle,
comment on utilise l'interruption volontaire de grossesse pour parler d'avortement ? Ça s'appelle des terminologies, on a besoin de synonymes. J'ai utilisé le terme euthanasie plutôt dans l'émission.
D'accord. Par exemple, antérieurement, les soins palliatifs sont nés en France à cause des cocktails lithiques, parce que justement, les cocktails lithiques n'étaient pas du tout donnés à la demande des personnes, mais étaient donnés par les médecins. Donc, il faut savoir aussi que historiquement, ce n'était pas forcément avec consentement. Comme maintenant, bien sûr, dans toutes les lois, c'est avec consentement, mais ce n'était pas forcément le cas.
Ouais.
Et de plus en plus, par exemple, en Belgique, il y a des aussi sans consentement, puisqu'il y a des gens qui sont dans l'inconscience, etc. Mais si vous voulez, quand vous dites que la personne, elle demande, oui, bien sûr, elle demande, mais elle demande à qui ? Voyez-vous, moi, à Saint-Denis, j'ai pas eu de demande. J'ai pas eu de demande parce que d'une part, c'est pas la même population, probablement, parce que c'est une autre
culture. Culturellement, c'est complètement différent, oui.
Il y a une autre culture, mais aussi parce que, vous savez, la demande, elle vient de l'offre. Hein. On est dans une société capitaliste où on sait bien se voir de la publicité parce qu'on sait bien même qu'on fonctionne que comme ça. Et plus on est fragile, plus on est vulnérable, et plus on est un peu en miroir de celui qui est en face de vous. Mmh. Moi, j'ai eu des patients qui me demandaient, parce que j'avais travaillé tout à fait quand j'étais jeune, à l'ANEC, donc c'était pas les mêmes populations. Ils me disaient, docteur, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il faut que je vous demande l'euthanasie? Je disais, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous n'avez pas des choses encore un petit peu à faire? Et à chaque fois, les personnes étaient revivifiées. Et moi, mon boulot, c'est de les revivifier, pas de leur dire, mais oui, c'est le moment, on y va. Et quand vous dites que c'est pas supprimer la personne, pour la personne qui fait l'acte, il y a quand même un acte.
Évidemment, et une très forte responsabilité pour elle.
Voilà, et c'est un acte qui est quand même, dans le bug dictionnaire, ça s'appelle tuer, quoi. Alors, bien sûr, c'est des gens qui vont mourir. Ça ne change pas l'acte pour celui qui le fait. Hein. Je ne vous dis pas pour celui qui le demande. Hein,
mais vous dites tuer, mais le mot tuer, quand on regarde dans le dictionnaire, il y a une dimension de violence dans tuer.
De rapidité.
D'accord.
C'est de rapidité, d'accord. Pas de violence.
Ouais. Et donc, on a bien compris le fond de votre pensée. Vous, c'est faire progresser le soin et donner des moyens supplémentaires aux soignants qui sont, par exemple, en soins palliatifs, c'est ça?
D'abord, parce que quand vous dites qu'il y a choix, pour l'instant, il n'y a pas de choix. Il n'y a absolument pas de choix. Il y a la majorité des gens qui... D'ailleurs, ceux qui répondent, ils disent « on veut mourir sans souffrance ». Et la plupart n'ont jamais ni rencontré des professionnels qui s'occupent un peu de leur douleur et de leur confort. Et aussi, une chose dont on parle très peu, c'est que la loi, depuis des années, oblige les médecins à ne pas faire d'obstination déraisonnable. Or, bien sûr, il y a énormément d'obstination déraisonnable. Et donc, le choix, il ne serait pas entre une obstination déraisonnable, une euthanasie, et le choix, il serait entre une médecine qui serait juste, qui serait au juste des demandes des patients, qui permettrait de diminuer les souffrances, de ne pas s'obstiner, et donc avec des morts qui sont paisibles, et, ou alors la médecine qu'on a actuellement.
Et dénoncer ces directives aussi, c'est très important, hein.
Alors, les directives anticipées, c'est très important, mais ce qui est encore plus important, c'est les discussions anticipées. La plupart des patients, ils peuvent parler. La plupart des patients, l'immense majorité des patients sont conscients. Donc, il faudrait déjà que les soignants puissent accepter d'entendre ce que disent les patients quand ils disent « je veux pas de père, je veux pas de chimio » et de pas les faire, et non pas de pas entendre et d'aller regarder « ah ben, il n'y a pas de directive anticipée ». Oui, bien sûr, mais ils peuvent parler.
Il faut parler, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, docteur Isabelle Marin. Vous avez signé aux éditions Buchet-Chastel l'ouvrage « Allez donc mourir ailleurs ». Il nous reste peu de temps pour conclure. Docteur Denis Labelle, vous parlez, face à la situation actuelle, de l'hypocrisie de la société. Pourquoi ce terme d'hypocrisie ?
Parce que la société accepte une clandestinité et ne reconnaît pas cette clandestinité qui continue aujourd'hui. Ma collègue a tout à fait raison pour dire que les malades souvent ne donnaient pas leur avis au moment des cocktails lithiques. C'est tout à fait exact. Il fallait faire une évolution dans ce sens-là, respecter la parole du malade. Moi, j'ai travaillé avec des équipes de soins palliatifs mobiles en permanence. Mais c'était tout de même l'équipe médicale qui s'occupait du malade qui, avec lui, répondait à sa demande.
Donc, ce n'est pas les uns contre les autres, on l'a bien compris.
Non,
vous dites hypocrisie de la société. Est-ce qu'il faut une loi pour sortir de cette hypocrisie ?
Je voudrais juste dire une chose qui est très importante. Le mot « tuer », il faut regarder dans le dictionnaire, c'est tout de même retirer la vie de l'autre avec violence. Or là, ce n'est pas le problème. C'est le malade qui demande à partir. Il ne faut pas confondre les mots parce qu'ils sont violents.
Voilà. Quand on parle de la mort, c'est très sensible. Je repose ma question. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ?
Bien sûr qu'il faut une nouvelle loi. Il faut une loi de liberté. Il faut une loi qui permet aux gens soit de choisir les soins palliatifs, tout à fait, et les développer, soit de choisir la sédation profonde et continue, et pas de problème, mais d'une sédation humaine, soit de choisir l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté.
Et on en reparlera parce que le débat est loin d'être clos, comme dit mon excellent confrère Juan Gobez. Denis Labelle, docteur, merci beaucoup. Le titre de votre livre paru chez Plon, « Le médecin, la liberté et la mort ». Manger équilibré pour rester en bonne santé. Avec nous à présent, docteur Bintou Cherseg, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes diététicienne, docteur en nutrition. On vous retrouve dans les studios RFI Dakar en Mandincan et Full Full Day. Alors, dans la chasse aux excès aujourd'hui, on va piocher la carte sucre. Avec en réalité, non pas un sucre, mais des sucres au pluriel. Quand on dit manger moins sucré, de quel sucre on parle exactement ?
Donc, pour les besoins de cette chronique, on va distinguer deux types de sucres. D'abord, il y a les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments, comme les fruits, les produits laitiers, le lait, les yaourts, etc. Le riz, le fonio, donc les céréales, la banane plantain. Et ce sucre est absolument indispensable. C'est même la source principale d'énergie pour l'organisme. Et puis, il y a ce deuxième type de sucre qu'on ajoute nous-mêmes à nos aliments. Par exemple, qu'on ajoute au café le matin, ou au thé, au jus, qu'on va ajouter dans nos pâtisseries. Ce sucre n'est absolument pas indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Et en consommer à l'excès, eh bien, c'est nuisible à la santé.
Alors, on parle donc des conséquences pour notre santé. Quel risque, docteur Bintou Cherseg, lorsque l'on mange justement trop sucré ?
Vous savez, Caroline, l'excès de sucre ajouté, c'est peut-être le plus gros mal de notre temps. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de limiter la consommation de sucre à 5 morceaux par jour, ou 50 grammes, parce que l'excès de sucre augmente le risque de surpoids ou d'obésité, donc l'excès de graisse dans le corps, des maladies chroniques telles que le diabète, des maladies du cœur et de la circulation sanguine qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, sans compter que plus on mange de sucre ajouté, plus on a le risque de développer une dépendance au sucre. Et je pense que nos auditeurs, certains, se reconnaîtront qu'ils ont une certaine dépendance, une habitude de consommer du sucre.
Alors, on va essayer de limiter notre consommation de sucre. C'est donc le moment de retrouver vos conseils, tout simplement appliqués chez soi, une fois qu'on passe à table ou qu'on va boire un thé.
Alors, j'ai quatre conseils, Caroline. Premier conseil, il faut apprendre à boire les boissons chaudes, comme le café, le thé, les tisanes, sans sucre. Alors, ça peut paraître radical pour certains, mais j'ai une astuce. C'est qu'il faudrait, à partir de maintenant, prendre une gorgée sans sucre déjà. Donc, une fois qu'on a préparé son café, son thé, on prend une ou deux gorgées sans sucre. Et ensuite, on ajoute un morceau de moins que d'habitude. Mmh. Donc, supposons que vous avez l'habitude d'ajouter quatre morceaux de sucre, c'est pas rare. Eh bien, on prend ces gorgées sans sucre et puis on rajoute trois morceaux au lieu de quatre. Et c'est une façon de tromper le cerveau. Et on répète cette technique jusqu'à arriver à zéro morceau de sucre. Et je vous assure que ça marche.
Et si on prend qu'un seul morceau, hein, là je parle pour ma gouverne, parce que moi je prends le matin un demi dans le thé et un dans le café. Est-ce qu'on doit complètement arrêter ou c'est pas forcément obligatoire ?
Alors là, ça ne pose aucun problème. Donc, puisqu'on a jusqu'à 5 morceaux de sucre par jour, on est OK. Donc, si vous êtes vraiment sur un morceau dans votre boisson chaude, aucun problème.
Vous m'avez redonné le sourire, ça fait plaisir. Alors, il y a aussi des choses qui sont très importantes, par exemple sur la boisson toujours.
Oui, il faut faire de l'eau sa boisson principale. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de sucre ajouté et ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont sur des jus de fruits, des boissons sucrées. Et en pensant que c'est naturel, ça peut être des jus de fruits, même des jus de fruits locaux, par exemple, comme le jus d'hibiscus qu'on sert régulièrement dans certains pays, le bissap au Sénégal. Et donc, les boissons sucrées devraient être consommées qu'occasionnellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 à 10 morceaux de sucre dans une seule canette de soda.
Bon, donc là, on a déjà dépassé la limite. Hein.
Exactement. Alors, 5 morceaux de sucre dans un verre de nectar ou de jus de fruits. Et jusqu'à 10 morceaux de sucre dans le fameux verre de jus d'hibiscus ou de bissap dont je parlais tout à l'heure.
Ça veut dire qu'on a mangé un paquet de bonbons.
Exactement.
Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le sucre caché.
Absolument. Donc, dès qu'on entend caché, c'est le sucre qui va être ajouté, caché, dans les aliments industriels. Et on dit caché parce que ce n'est pas forcément des aliments où on s'attendrait de voir du sucre ajouté. On ne le sent même pas forcément. Mais en lisant la liste des ingrédients, eh bien, on peut repérer ce sucre caché. Mais il faut savoir repérer les différentes appellations du sucre que l'industrie agroalimentaire finalement emploie. Parfois, j'ai l'impression pour nous tromper, parce qu'on va avoir des appellations comme glucose, tout le monde ne sait pas que c'est du sucre, fructose, le sirop de betterave. Là aussi, on va avoir sirop de betterave, mais betterave, c'est un légume, donc tout va bien. Non, le sirop de betterave, en fait, c'est bien l'intrant qu'on utilise pour fabriquer le sucre blanc, les morceaux de sucre qu'on utilise tous, et puis, ou alors du sirop de maïs, tout ça c'est du sucre. Donc il faut vraiment apprendre à lire ces étiquettes-là.
Et puis encore une fois, attention, on va dire à ce qui est tout près les aliments industriels.
Hein. Absolument, et où le sucre d'ailleurs apparaît comme l'un des premiers ou le premier ingrédient. Alors quand on prend un aliment industriel comme ça, on lit la liste des ingrédients et la première chose qu'on lit c'est le sucre, ça veut dire que c'est l'ingrédient principal de cet aliment. Par exemple, un exemple frappant que je donne souvent, c'est les poudres chocolatées pour le petit déjeuner qu'on donne généreusement à nos enfants malheureusement. Eh bien ces poudres chocolatées, premier ingrédient c'est le sucre parce qu'elles contiennent 75% de sucre.
Rien à voir avec le cacao. Hein.
Absolument, il faut plutôt choisir du cacao 100%.
100%, et là on rajoute ce fameux petit sucre à la fin pour le plaisir. Merci beaucoup Dr Bintou Chersek. Tous ces conseils, cette chronique, on peut les réentendre sur le podcast de l'émission Priorité Santé. À toute heure, à bientôt.
Merci Caroline.
Et merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et fabrique votre émission. C'est tout Sama Kéophile, la scène Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, on va parler de la jalousie en amour, en amitié, en famille ou même au travail. Oui, ça existe. Jalousie ressentie, subie, à quel moment devient-elle maladive? Comment y échapper? On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner face aux imprévus sur votre route.